Bonjour, le MAG sur Tropic FM. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et privilège de recevoir au téléphone l'artiste de l'année sur notre antenne, Dominique Anet, plus connu sous le nom de Dominique A. Bonjour.
Bonjour.
Cette distinction honorifique récompense ton superbe travail sur ton dernier album en date, L'Horizon, mais également le travail de toutes ces années depuis 1992 et ce premier opus, La Fossette. Tu es sensible aux distinctions, même honorifiques qu'elles soient?
Ça flatte toujours la petite personne. Donc non, ça me fait plaisir. Non, bien sûr. J'ai été surpris. Hein.
Menteur.
Non, si, sincèrement. Non, je reçois pas tellement de trucs, en fait, comme ça. Et bon, c'est vrai que là, par rapport à ce disque-là, ça s'est bien passé pour moi, mais c'est pas non plus un espèce de délire médiatique. Donc ça me fait plaisir.
Mais j'ai entendu chez Bernard Lenoir que c'était l'album dont tu avais vendu le moins d'exemplaires. C'est totalement faux ou...
Qui a dit ça?
Bernard Lenoir, justement. Tu vois à peu près de
ah
qui
bon,
je parle.
Pour l'instant, oui. Ou non, il a raison pour l'instant. C'est-à-dire que maintenant, les disques, ça se vend plus pareil.
Et oui, c'est vrai.
Que le public s'est pas réduit comme peau de chagrin par rapport à moi. Mais c'est vrai que là, actuellement, on a vendu, je sais pas, un truc comme... 22 000 copies de ce disque-là, ce qui est peu, en fait. En même temps, c'est beaucoup.
Oui,
pour moi,
oui.
ça me semble toujours assez délirant de vendre plusieurs milliers de copies. Mais dans la perception qu'ont les gens d'une vente de disques un petit peu importante, c'est dérisoire.
Mais t'as bien conscience d'avoir quand même acquis une certaine notoriété, là, sur la scène française, là.
Oui, bien sûr, ouais. Mais en fait, c'est assez rigolo parce que les histoires de notoriété et d'influence ne sont pas forcément liées à des histoires de vente de disques,
oui,
en fait.
Oui, oui.
C'est-à-dire qu'on peut parler beaucoup de vous et finalement, le grand public ne vous connaît pas, mais vous représentez quelque chose pour pas mal de gens en même temps. Donc c'est quelque chose d'assez, difficile à...
Impalpable.
Ouais, assez impalpable, en fait. Mm-hmm. Parce qu'il y a des gens qui se retrouvent, par exemple, avec un premier ou un deuxième album à vendre énormément d'exemplaires. Et finalement, le retentissement de l'histoire est très très faible quelques années après.
Voilà, c'est ça. Voilà.
Et vice versa, il y a des choses comme ça qui se vendent à peu d'exemplaires, et puis finalement, on en parle sur le. Il y a eu un disque comme ça que j'ai fait il y a quelques années qui s'appelait Remuer.
Bien sûr.
Il y a en 99 et qui s'est mal vendu. Mais par contre, on en parle tout le temps de ce disque.
Oui, je crois qu'il avait eu un impact auprès des critiques et auprès d'un certain public aussi.
Bah, surtout auprès d'un public. En fait, je crois que les critiques, à quelques exceptions près, l'ont pris avec des pincettes en disant « Oh là, c'est quoi ce truc ?» Et finalement, après coup, j'ai eu plein de retours de groupes, de jeunes groupes qui me disaient « Voilà, c'est un disque à compter pour nous. » Le producteur du disque, Dominique Bresson, suite à ce disque-là, a eu au moins 40 propositions de groupes pour enregistrer des disques. Mmh. Donc ça montre bien qu'il y a eu un impact. Ça, c'est clair.
Mais
alors
ça...
que sur le moment, les salles, quand on jouait, c'était pas Byzance, hein. Il y avait pas grand monde et on sentait que les gens n'avaient pas, le public n'avait pas vraiment envie de ça, quoi. Donc c'est assez particulier parce que finalement, c'est avec le temps qu'on voit un petit peu l'impact d'un disque.
Mais Remuer, c'est un album qui avait pris un peu le contre-pied du précédent, La Mémoire Neuve. Et...
Ouais.
Qui avait été taxé un peu d'album hermétique. Je pense que c'est pas tout à fait le cas, mais.
Il est un peu rude, mais bon, il y a quelque chose de mélodique dedans aussi. C'est pas non plus, c'est pas une musique complètement venue de nulle part avec des harmonies jamais entendues, quoi.
Bien. Alors, on parlait de ton dernier album en date, L'Horizon, sorti donc le 6 mars 2006 chez Olympic Disc. Tu as quitté labels et Virgin sans regret.
Oui, non, sans regret. C'est-à-dire que il y avait, pour moi, ça sentait un petit peu la fin de l'histoire. J'avais beaucoup bataillé pour faire l'album précédent avec Virgin. Et puis, au bout d'un moment, on rentre dans un confort avec. Moi, je m'entendais assez bien avec les gens de labels, mais en même temps, je sentais qu'il était temps pour moi de plus être soumis à certaines pressions commerciales, des choses comme ça, des trucs qui me correspondent pas. Et puis je voyais aussi le vent tourner par rapport à toutes les histoires de téléchargement et de contrats qui étaient rendus à des artistes. Et je me disais bon, il vaut mieux que je prenne les devants parce que sinon finalement je vais me retrouver avec le bec dans l'eau, on va me licencier. Et puis et finalement ça va mieux vaut. Je pense que même psychologiquement, c'est plus gratifiant de partir que d'être viré, quoi.
Oui.
Donc, c'était un petit peu mêlé tout ça, mais il n'y avait pas de regret, non. Je me disais que c'était fini et qu'il fallait passer à autre chose.
Et sur scène, ça a coïncidé avec un changement de formation. Là, il y avait un saxophoniste qu'on a vu à la salle Molière à Lyon il y a très peu de temps. Est-ce que c'est aussi lié à ton changement d'ambiance au niveau de la maison de disques ou c'est quelque chose qui te marque, ça, les changements de formule sur scène?
Non, là, en l'occurrence, le saxophoniste dont tu parles, c'est Daniel Pabeuf, avec qui je joue depuis, en fait, 2 ans et demi à peu près, puisqu'on a commencé suite à l'album précédent. J'ai fait une tournée avec une formation un peu particulière. Mmh. Et grosso modo, c'est les mêmes gens aujourd'hui qui m'accompagnent, qui ont travaillé aussi sur l'Horizon, sur le dernier disque. Et donc, voilà, ça correspond à la fin de la période avec EMI, mais c'est pas lié justement à un changement de structure, parce que ça, c'est vraiment indépendant. Les envies musicales sont indépendantes de ça.
Mais est-ce qu'on peut t'imaginer un jour, par exemple, je sais pas, sur scène avec un quatuor à cordes ou quelque chose comme ça?
Les concerts avec quatuor à cordes, je trouve que je suis pas très convaincu, en fait, souvent par ce genre de formule, parce que je trouve que les cordes, c'est très difficile à sonoriser dans un concert électrique. Bon, moi, je donne des concerts assez électriques. Oui. Et c'est vrai que j'ai vu pas mal de formations comme ça se casser un petit peu les dents en invitant des quatuors à cordes. Et puis finalement, les cordes ne sortaient pas. Elles étaient masquées par les guitares, par les batteries, par les basses. Et justement, l'idée de la formule avec les instruments avant, c'était justement des fois de reproduire des arrangements de cordes sur l'album précédent, mais de les transposer avec des instruments avant qui ont une puissance, un volume sonore beaucoup plus fort à la base, donc qui sont pas susceptibles d'être noyé dans une masse sonore.
Mais on t'a trouvé très très détendu sur scène et vraiment en phase avec le public, peut-être plus qu'avant. Est-ce que c'est l'expérience des tournées ou...
Ouais, c'est la soirée, hein.
Ouais.
C'est le lieu, je sais pas, le lendemain, je sais qu'on a fait un concert, c'était pas terrible.
Ouais.
Donc ça dépend vraiment des jours, c'est ça, ouais, les tournées, ça, ouais. Hein, les tournées, c'est jour en jour, c'est jamais pareil. On n'est jamais dans le même état psychologique, dans la même forme physique. Donc voilà, là on s'est bien senti dans la salle et ça a donné un bon concert. Mais le lendemain c'était beaucoup moins bon.
Mais t'as quand même gagné beaucoup d'aisance par rapport à tes débuts, du temps de la fossette où tu montais seul sur scène.
Ah bah oui, bah ça serait un peu désespérant après tous ces concerts. Oui, 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 mais l'aisance, en fait, elle peut vraiment l'expérience, tout ça. Il y a encore samedi, j'ai fait une apparition dans une soirée à Nantes. Bon, ça faisait 15 jours que j'avais pas donné de concert et j'avais l'impression de pas avoir joué depuis un an, parce qu'on perd vite certaines habitudes, certains mécanismes de scène. Donc finalement tout est très dépendant de ce qui se passe le soir venu, quoi.
Mais ceci dit, t'es quand même bien épaulé par un hyperactif de la scène française qui est Olivier Mélano.
Ouais, super actif, monsieur Stakhanov, quoi. Ah oui, non.
Mais c'est fou parce qu'il a des projets de tous les côtés.
Ah ben c'est effrayant, je sais pas, il va casser sa pipe, hein, c'est quoi.
Non,
ce qui est génial avec Olivier, c'est que c'est des projets complètement différents, c'est-à-dire qu'il va passer de son groupe mobile au hip-hop surréaliste de Psychic Lyrica. Après il vient de faire un disque de musique baroque. Sur Naïve, il a fait un truc qui s'appelle la chair des anges, enfin un disque qui s'appelle La chair des anges, et c'est de la musique baroque, quoi. C'est avec des clavecins, c'est quelqu'un qui a vraiment une faculté de transformisme, j'ai envie de dire, assez époustouflante. Et puis en même temps, il y a toujours sa patte. C'est-à-dire, on reconnaît toujours un style, quoi, une patte, quoi.
À la fois comme guitariste et comme arrangeur, c'est
vrai. Oui, tout à fait.
Alors, le voyage, tout comme la ville d'ailleurs, est un thème qui t'est cher et qu'on retrouve très présent sur l'horizon. Tu as le temps de voyager malgré les tournées, ou est-ce que c'est l'imaginaire qui fonctionne?
Ah ben, les tournées, déjà, c'est les voyages, même si c'est souvent sur un périmètre restreint. On va quand même des fois de temps en temps à l'étranger. Et j'aime bien ce contexte-là, parce que même si c'est des petites périodes, ça permet justement d'avoir de pas partir en touriste total et d'avoir quelque chose à faire, et puis de glaner des images par ailleurs. Ça, c'est un truc que j'adore. Autrement, oui, je prends le temps de voyager, je dirais, avec mon amoureuse, de partir régulièrement. Et là, par exemple, au début de l'année, on va prendre une semaine pour aller, je pense, du côté de la Hongrie. Voilà, c'est important pour moi, oui, de sur un plan personnel. Et puis aussi, c'est vrai que ça me, de plus en plus, ça me nourrit, ça déclenche des choses au niveau de l'inspiration, c'est sûr.
À propos des pays un peu à l'est, là, j'ai remarqué que tu chantais plus le gros Boris sur scène.
Et
depuis
que
Boris Eltsine a disparu. Ah, d'accord. Autant pour moi.
Non, mais ça faisait très longtemps que je l'avais pas chanté. Mais c'est vrai que c'est pas une chanson qui me vient à l'idée comme ça, mais c'est. Il y a des gens qui me la demandent, et c'est une chanson que j'aime bien, donc mais il y a je ne sais plus tellement la faire, en fait. Il y a des chansons comme ça, il faut retrouver une fraîcheur, et voilà, c'est une chanson que j'ai un peu perdue.
Est-ce que tu as des retours parfois de tes fans, parce que tu proposes des versions assez différentes de ce qu'il y a sur le disque, hein, je pense au Courage des oiseaux par exemple.
Ouais.
Est-ce que tu as des réactions par rapport à ces changements de version?
Bien sûr, ouais. Bah, les réactions sont plutôt bonnes, en fait. Les gens sont pas ont pas une vision figée des morceaux. Je crois que les gens qui me suivent en particulier savent que ça évolue suivant les tournées, que les morceaux sonnent jamais tout à fait de la même façon. Donc je crois que ça fait partie maintenant d'un espèce de jeu même qu'il y a avec le public de pas avoir les versions reproduites en version album, quoi.
Oui.
Enfin, les chansons reproduites en version album. Et non, c'est presque assez. Je pense que les gens attendent ça.
Et est-ce que dans ta discographie, il y a des choses que tu, enfin, pas que tu renies, mais dont tu te sens moins fier maintenant?
Oh bah oui, bien sûr, oui. Hein. Surtout sur chaque disque, il y a des regrets. Enfin, les regrets, c'est un bien grand mot, parce que sur le moment, je sais que bon, j'avais une, ça justifiait, mais souvent d'ailleurs, les morceaux que finalement, dont je me suis vraiment coupé. C'est souvent ceux avec lesquels j'avais un doute au départ.
Ouais.
Je pense à des morceaux confirmé. Sur le premier. J'aime beaucoup le premier disque, mais il y a juste un morceau pour moi qui fait tâche, qui s'appelle Mes Lapins. Et je sais que je l'avais mis à l'époque pour faire plaisir à Vincent de Lithium, qui était à la maison de disque, qui aimait particulièrement ce morceau. Donc je me dis bon allez, il produit mon disque, je vais lui faire plaisir. J'avais pas été très
très convaincu,
comment dire, et combatif sur ce point-là aussi.
D'accord.
Oui,
il y en a d'autres. Hein,
oui, bien sûr, il y en a d'autres. Alors, parlons rapidement de Julien Clerc, interrogé par Télérama, qui a déclaré que la nouvelle scène française privilégiait les textes au détriment de la musique. Alors, est-ce que tu voulais envoyer ton dernier album ou bien conseiller de consulter un médecin d'urgence?
Je sais pas, non, mais en fait, ce qui m'agace un petit peu, enfin, on lit souvent, on entend souvent ce genre de propos de la part de certains ténors de la variété française, de la chanson française, c'est des gens qui n'écoutent rien, quoi, en fait, qui sont restés dans leur époque et qui vont écouter ce vers quoi on les oriente, vers quoi la maison de disques va éventuellement les orienter pour leur redonner un petit peu de sang neuf, à savoir souvent les trucs qui marchent, les petits nouveaux qui marchent. Donc voilà, autrement, la curiosité n'est pas de mise, quoi. Alors bon, je parle pas pour tout le monde, hein. Il y a des gens qui avec de la bouteille et beaucoup d'années de carrière derrière eux ont toujours cette capacité à entendre les choses. Mais il y a plein de gens, il y a une espèce de fermeture d'écoutille. Et puis je crois que de leur part, il y a un désintérêt vis-à-vis de la musique. Donc ils font juste leur boulot. Et bon, après, le problème, c'est qu'ils se permettent d'avoir des jugements un petit peu à l'emporte-pièce.
Est-ce que tu ressens une forme d'amertume ou d'injustice, justement, parce que les écrans de télé ou les radios sont monopolisés par des technocrates, des artistes officiels?
Non, pas vraiment, parce que je crois que de moi-même, je me suis mis...
En marge?
Dans la marge, ouais. Et donc, je vais pas... faut être logique, quoi. Je peux pas à la fois revendiquer le premier plan et puis en même temps revendiquer le fait de faire des choses un petit peu de côté. Faut être logique. Donc moi, je trouve que la musique m'a apporté plus de joie que de motifs d'amertume. Enfin, j'ai une vie enviable à bien des égards. Donc être amer, ça serait vraiment un espèce de luxe, injustifiable. Injustifiable comme bien des luxes d'ailleurs. Non, j'ai pas d'amertume. Je peux avoir des fois effectivement un petit peu d'aigreur qui remonte, mais je suis redevable à la musique d'une vie assez formidable. Donc, faut remballer son orgueil des fois.
Il y a sur ton dernier album, il y a une chanson magnifique qui s'appelle La Relève. Est-ce que tu sens parmi des gens comme Armand Méliès, dont on parle un petit peu, est-ce que tu sens une relève se pointer derrière toi?
Des gens qui arrivent et qui font des choses qui m'intéressent, des gens oui, clairement, je pense effectivement, il y a des gens comme Armand Méliès, comme Mansfield Tia, comme Holden, mais bon, Holden, ça fait quelques années qu'ils font des albums. Mais surtout, même auprès de gens qui sont un peu d'une autre génération et des fois plus âgés que moi, comme Marcel Kanch, comme Philippe Poirier, comme Bachung, ce que j'aime chez tous ces gens-là, entre autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, c'est le fait de vouloir faire partir la chanson sur des terrains qui sont pas forcément ceux du réalisme à tout prix. Donc je me sens dans la scène française, je me sens pas du tout isolé. Je trouve qu'il y a plein de gens qui font des choses intéressantes.
Mais je crois que tu avais été fortement impressionné par un album de Bachung, L'Imprudence.
Oui, L'Imprudence, oui, tout à fait. Oui, parce que justement, il replaçait clairement la chanson du côté du rêve, du côté des zones d'ombre un petit peu aussi de la conscience. Alors je parle pas de l'inconscience, mais il y a des choses comme ça, et puis l'envie de pas limiter, de pas circonscrire la chanson à quelque chose qui est de l'ordre de dire des vérités, de raconter des situations quotidiennes. Bon, après dans le genre, il y a des gens que j'aime bien Delerm par exemple, qui je trouve qu'il le fait bien et qu'il a une façon de pointer les choses assez habile par moment. Mais il y en a d'autres aussi. Mais c'est vrai que je me sens plus volontiers attiré par des gens qui ont une vision un peu décalée du réel ou de la réalité.
Mais tu as collaboré avec des gens comme Yann Tiersen, comme Miossé, comme Les Little Rabbits. Est-ce que tu as d'autres chantiers comme ça en projet?
Non. Ces derniers temps, j'ai écrit un peu pour d'autres gens. Donc j'ai collaboré, sur le dit Jeanne Balibar, parce que j'ai joué, sur les morceaux que j'ai écrits, j'ai pas mal participé à la musique, à l'enregistrement, avec Jean Guidoni aussi un petit peu. Autrement, là, pour l'instant, j'ai entendu une fois une musique d'un petit groupe qui s'appelle Creux, qui est un groupe parisien, et qui n'ont rien fait de public pour l'instant, à part la musique de court-métrage. Justement, c'est des cordes avec de l'électro, et je trouve vraiment qu'ils ont un truc d'intéressant, donc j'envisage éventuellement de faire un truc avec eux. Et ici, il y a une collaboration qui est prévue avec Psychic Lyrica, donc qui est un groupe de hip-hop rennais. Mélano participe à ce groupe, mais à la base, c'est un duo, Robert le Magnifique et Arm, qui est le chanteur parolier, et qui fait un espèce de hip-hop très très tendu et très pas du tout pas placé non justement sur le terrain du réel ou la dénonciation à tout prix, mais sur un terrain plus poétique en fait.
Plus onirique peut-être.
Plus onirique et avec une vraie virulence et une vraie force. Donc c'est vrai que ça m'intéresse un petit peu d'aller aussi sur ce terrain-là, et donc voilà, on doit faire un truc à la fin du mois même.
D'accord.
Bien. Eh ben merci Dominika, notre artiste de l'année.
Je suis désolé, des fois j'entendais ma voix en écho, donc je sais pas si ça donnait des réponses un peu bizarres, j'en sais rien.
Ça tombe bien, l'écho, c'est une de tes meilleures chansons, donc t'es pas dépaysé.
Alors rappelons quand même que ton superbe dernier album, L'Horizon, est toujours en vente, hein.
Oui.
Et qu'il faut se procurer de toute urgence.
Il y a intérêt,
je crois qu'il est en vente.
On te retrouve sur internet via le site www.commentcertainvivent.com, qui curieusement n'est pas le site officiel de Dominika.
C'est le site officiel, mais à la base c'est un site fait par des j'aime pas beaucoup le mot fan, mais bon, on va dire des amateurs.
Des passionnés.
Voilà, des passionnés, et qui maintenant on collabore d'assez près. Mais c'est vrai que c'est leur outil, c'est leur bébé. Moi je leur apporte de la matière, quoi.
À côté concert, c'est un petit peu loin, mais bon, ça va aller vite. L'année 2007, on te retrouve au Théâtre Bonlieu à Annecy le mardi 6 février 2007. Mm-hmm. Hein, c'est la date la plus proche de chez nous.
Ouais.
Eh ben, Dominique, bonne continuation.
Merci, et merci de cet honneur que vous me faites.
N'inverse pas les rôles non plus. Hein.
Sache que toutes les radios comme nous, aimant la chanson, seront toujours derrière toi.
Hein. Bon,
Et tu peux compter sur nous, voilà.
Merci.
Et puis, merci beaucoup, puis un de ces jours, Tropic FM.
Ok, Ok, bah volontiers.
Merci, à bientôt.
À très bientôt.
À bientôt.
Au revoir.
Au revoir.